Vous êtes sur RTL.
Ici la voix.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'appareil vocal, c'est notre corps. Chacun des membres qu'on utilise pour chanter.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est la voix.
RTL.
C'est tout pour le moment.
Bonjour Jean Habitbol.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ORL. Vous prenez soin de nos cordes vocales et de notre voix. Il faut dire qu'elle joue un rôle majeur. Alors vous allez nous raconter des expériences, remonter le cours de l'histoire aussi. Mais on va commencer, c'est l'une de notre spécialité dans la curiosité, par parler drague et sexualité.
Votre spécialité,
bon,
Thomas.
Bon non, c'est facile, il faut assumer, Sidonie. Parce que la voix joue un rôle majeur.
Fondamental.
Et vous allez nous baser sur une expérience menée par un médecin, le docteur Collins. Il y a la version femme, la version homme. On commence par cette expérience menée sur des femmes de 18 à 30 ans. Que leur propose-t-il?
Alors, c'est relativement simple. C'est qu'il fait écouter à ces femmes-là des voix d'hommes. Et en fonction de la voix, si la voix est très grave, la femme va être séduite tout de suite, mais par une expérience à long terme.
Ah, c'est l'homme de notre vie, on va dire, c'est
voilà,
ça?
D'accord. Exactement. Et si la voix est relativement baryton, c'est-à-dire entre les graves et les aigus, c'est une expérience à court terme.
Alors, un petit test avec Thomas. Pour vous, il a quelle voix?
Baryton.
Bariton. Ah. Donc moi c'est du court terme.
Bonsoir alors. C'est déjà pas mal.
Mais
c'est pas mal quand même.
La musicalité de la voix est importante. Ce qui est également intéressant, c'est que les voix graves, pour quelle raison, c'est une expérience en fait de sélection importante, qu'elles transmettent une certaine forme hormonale qui est la testostérone. Et la testostérone est l'hormone de la libido quand même. Et sans testostérone, une femme qui n'a pas de testostérone n'a pas de libido. Donc la testostérone, c'est pas seulement pour les hommes, c'est également pour les femmes à un certain degré.
Mais donc ça veut dire que quand il y a beaucoup de testostérone un bonhomme, il a une voix grave comme
il
ça.
A une voix grave,
ah oui.
Et puis il est beaucoup plus séducteur parce qu'il est paradoxalement plus puissant. C'est ce qu'on a le cerf notamment Forêt de Fontainebleau au moment du rude, c'est en octobre.
Voilà, exactement.
Donc la voix est un pouvoir de séduction fondamental chez l'homme, puisque ça a été le pouvoir le plus important, plus que de bouger ou de danser devant sa femelle en face de lui.
Est-ce qu'on peut tromper les femmes, les femelles, en maquillant sa voix?
Alors, ça c'est très intéressant. C'est une expérience qui a été faite à double aveugle.
Oui.
On a maquillé effectivement les voix, on a demandé à des voix d'hommes de parler très aiguës.
Oui.
Et en quelques secondes, la femme sait qu'il est en train de tricher. Parce que la musicalité n'est pas la même, mais surtout les silences entre les mots, c'est ce qu'il y a de plus important dans la voix. Les mots sont les notes, mais les silences entre les mots, le rythme de la voix est capital. Et dans ce livre, qui est un livre à rythme d'ailleurs, parce qu'il y a 150 thèmes, 150 choses différentes, on est vraiment dans une histoire dans laquelle la voix est primordiale depuis 4 millions et demi d'années à nos jours, dans la façon dont on raconte notre vie.
Alors ce livre, c'est La belle histoire de la voix, qui est publié aux éditions Deux Boucs, et donc on disait, il y a l'étude inverse aussi, donc c'est-à-dire c'est des voix de femmes qui ont été proposées à des hommes.
Alors par exemple, si on écoute ma voix là comme ça, je la fais écouter à des hommes entre quoi, 18 et 35 aussi, ou on va plus loin? Qu'est-ce qu'ils en disent?
18 et 35.
N'ayez pas peur de la réponse, je suis blindée.
La réponse va être dramatique pour vous, parce qu'elle est extrêmement séduisante et séductrice. Et je n'ai pas l'habitude de faire des compliments. On me connaît un peu dans le métier, dans les médias. Et elle l'est tout simplement parce que votre voix est posée et elle a des consonances graves qui sont l'écrin de la voix de la femme. Et les composantes aiguës sont quelque part la signature de la voix d'une femme, c'est-à-dire entre 180 et 200 Hz. Mais si un beau diamant n'a pas un écrin superbe, l'éclat du diamant n'existe pas. Et c'est la même chose pour l'homme. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que la voix d'homme est une voix grave au départ, et les aigus vont lui donner ce relief. Et ce relief de la voix, c'est ce qui donne la séduction, c'est ce qui donne la sexualité de la voix, beaucoup plus qu'autre chose. Enfin, dans cette voix, il y a également une sincérité dans la façon dont vous allez poser votre voix. Quelqu'un qui va se mettre à parler comme ça, ça va pas le faire.
Il y a un problème.
Mais d'ailleurs, ça peut être discriminant, une voix.
Tout à fait.
Il y a des gens qui ne sont pas embauchés à cause de leur
voix.
Tout à fait.
Aujourd'hui, c'est un des facteurs fondamentaux. Si vous voulez, ce facteur est primordial dans l'embauche de certaines personnes au niveau de la voix, dans la communication avec les autres.
Et alors, docteur Habitbol, les hommes qui entendent des voix de femmes, ils les préfèrent jeunes, ces voix, plutôt âgées, mûres, graves, aiguës, qu'est-ce qu'ils aiment?
On va revenir à la même chose. Quand c'est une voix assez aiguë, eh bien, c'est l'instant. Et puis quand c'est une voix plus grave dans laquelle, ce que je viens de dire, c'est une dans laquelle on veut une relation qui va durer plus longtemps, parce qu'il y a une sécurité derrière entre la relation, entre la femme, l'homme a écouté cette voix de femme, il se dit, ben là j'ai une relation qui va durer plus longtemps.
Bon bah tous les deux, on a encore quelques années devant
nous.
Ça devrait aller. Prochaine question dans la curiosité, peut-on vraiment comme la Castafiore? Peut-on vraiment, comme la Castafiore, briser un verre avec sa voix?
Non.
Ben on verra.
C'est possible, vous pensez?
Black. Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Comment chanter comme Céline Dion? Céline Dion est une artiste, une chanteuse incontournable. Je te propose de voir ensemble aujourd'hui eh bien, les techniques qu'elle utilise. I was waiting
for so. La curiosité d'un vilain défaut.
Je suis donc bien contente là, de vous accueillir chez moi à Montréal. RTL.
On découvre les pouvoirs de la voix, de notre voix avec le docteur Jean Abitbol. On écoute évidemment aussi Céline Dion qu'on adore. Elle, on peut la mettre dans la catégorie des athlètes vocaux, c'est
oui.
Ça, ouais.
C'est une athlète de la voix à tous les niveaux. Premier point, d'abord au niveau de son hygiène de vie qui est absolument remarquable. Elle a une hygiène de vie importante, tant au niveau de l'alimentation que dans son entraînement physique, que de son entraînement vocal.
Et tout est car dirigé vers la voix ?
Oui, parce que La voix, la puissance de la voix, c'est la respiration. Le souffle, c'est la respiration. Ce souffle expiratoire, c'est le souffle de la vie, mais c'est le souffle de la santé de votre corps. La vibration des cordes vocales vont donner la hauteur de la voix. Et les caisses de résonance vont donner cette résonance vocale. Si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, je viens de passer mon nez, évidemment. Oui. J'ai les mêmes cordes vocales, j'ai le même souffle, mais pas les mêmes caisses de résonance. La preuve en est, et d'ailleurs je le montre dans le livre, dans la cathédrale qui est Notre-Dame de Paris, J'explique comment la résonance de la voix dans cette cathédrale est exceptionnelle. Alors pour revenir à Céline Dion, effectivement, bien sûr qu'elle a un don, bien sûr, mais la force d'un don, c'est le talent qu'il y a derrière pour y travailler. Oui. Il ne suffit pas d'avoir un don, faut-il le travailler, sinon c'est un one shot et c'est tout. Ce n'est pas une carrière avec tout cela.
Bien sûr, il y a aussi une question de posture sur scène, j'imagine, Jean Abitbol.
Et de plus, c'est comment on va gérer sa carrière. Oui. Il ne s'agit pas de faire 5 chansons et après s'arrêter, c'est gérer une carrière sur un tour mondial dans ce danse-là. Et la position sur une scène est effectivement importante, la preuve en est, c'est que on va donner un exemple très simple, que j'ai dans le livre, qui est le ventriloque. J'avais un ventriloque qui était venu me voir. Et ce ventriloque, il avait changé de chaussures. Il avait pris des chaussures, il avait été à Las Vegas, on avait été ensemble. C'était il y a quelques années où j'avais fait une conférence devant 900 ventriloques. Et ça fait un fait que vous avez 1800 personnes, parce que chaque ventriloque fait parler la poupée. Donc vous aviez 1800 personnes. Et le paradoxe, c'est que c'est la poupée qui vous répond, c'est jamais le ventriloque lui-même. Et puis, lui avait acheté des Santiago et il a voulu faire un numéro de ventriloque. Et il n'y est pas arrivé. Il n'y arrivait pas.
Simplement parce qu'il avait mis des talons énormes.
Il avait les pointes qui tombaient comme ça devant. Et il ne sentait pas sa position. Donc, bien sûr, vous avez raison, la posture, la verticalité du corps va donner la puissance et l'harmonie du corps.
Alors, on parlait de Céline Dion, vraie diva. Et puis, il y a la diva de bande dessinée, la Castafiore.
Alors, la Castafiore qui est réputée.
Qui éclate son verre. Voilà, qui éclate son verre. Est-ce que c'est possible, ça,
alors,
déjà?
Premier point, soi-disant, il y a une expérience qui a été faite par un Américain qui a mis ça dans le livre de records. Et ça, on le décrit aussi dans La Belle Histoire de la Voix, où il dit, voilà, j'ai cassé un verre. Le problème, c'est que la science doit être reproductible. Il est le seul à avoir fait ça.
Une seule fois.
Ah, curieux.
Donc c'est pas
moi, je veux bien. Mais comme ça qu'on a une seule expérience, ça laisse un doute. La preuve en est, c'est que toute une garnison qui va arriver sur un pont et qui va marcher ensemble, le pont va s'effondrer par la résonance des matériaux qu'il y a sur ce pont. Mais c'est la résonance de la voix. Or, la voix humaine, lorsque vous allez sur un verre, pour qu'il y ait une résonance de ce verre, il faut une seule fréquence. Cette fréquence va vibrer tout ensemble. Or, quand vous parlez, à part le sifflement, là, il n'y a qu'une seule fréquence. Ouais. Lorsque vous parlez, vous mélangez les harmoniques. Pour nous, enfin, pour moi, en tous les cas, pas plus de 3, parce que je ne suis pas chanteur. Pour Pavarotti, c'était 5 harmoniques ensemble, c'est absolument extraordinaire, et pouvait monter dans la voix.
Donc si je vous comprends bien, la voix est trop variée, c'est pas un terme scientifique, mais
absolument.
Pour pouvoir casser un verre, c'est ça ?
La beauté d'une voix, c'est justement sa variabilité. Preuve, Louis Armstrong. Oh, and the sands go marching. Ouais. C'est pas une voix claire. C'est une voix qui est comme ça, du jazz, du blues, comme Ray Charles, pareil. Eh bien ces voix-là, leur résonance va vous charmer. Et c'est justement un défaut vocal qui va vous charmer. Une voix trop pure pour revenir à tous les chanteurs qu'on pourra citer, qu'on a dans le livre, c'est les voix trop pures, elles vont vous ennuyer, car la pureté, paradoxalement, n'est pas ce que l'on recherche. Ce que l'on recherche, c'est le petit défaut qui donne le charme.
Jean Bilbol, pourquoi les grands singes, les chimpanzés par exemple, qui sont nos cousins proches, ne parlent pas?
Alors,
parce qu'ils font beaucoup de choses comme nous, ou on fait beaucoup de choses comme eux?
Oui, absolument. Tout simplement, ils ne parlent pas à cause d'un élément simple, mais on est très réducteur. C'est-à-dire que dans l'ADN, vous avez ce qu'on appelle le FOXP2, qui est le gène de la voix. Mais c'est réducteur. Un gène ne peut pas donner une voix. Mais en fait, ce gène va commander, c'est un chef d'orchestre qui va commander la totalité. Trois éléments fondamentaux. La première, c'est la verticalité, ce qu'on a parlé il y a quelques instants. Oui. La seconde, c'est la façon dont vont bouger les cordes vocales. Et la troisième, c'est les aires de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont des aires, donc deux aires dans le cerveau. L'aire de Broca commande la mobilité. L'aire de Wernicke, attention, 1 mm de diamètre. Tiens, tenez-vous bien. Oui. Impressionnant. Vous avez 250 000 mots. C'est mieux qu'un ordinateur.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est aussi petit que ça. Ouais. La base de notre langage dans le cerveau.
Oui, pratiquement, mais bien sûr, je dis c'est réducteur parce que la voix, c'est la totalité du cerveau, c'est le mouvement des yeux. Et quand vous avez une voix qui n'est pas sincère, qu'est-ce qui se passe? La gestuelle de vos mains n'est pas en synchro avec votre voix. Et à ce moment-là, vous dites, tiens, celui-là, quand il parle à la télé, il n'est pas vrai. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne colle pas.
C'est comme quelqu'un qui sourit seulement avec la bouche et pas avec les yeux. On se rend compte que ce n'est pas un vrai sourire. Exactement.
Et alors, d'autres questions. Lucie, notre ancienne ancêtre lointaine, elle vivait il y a 3,2 millions d'années. Est-ce qu'elle pouvait parler? Vous allez répondre à cette question avec votre jolie voix, docteur Jean-Yves Bilbol, tout de suite sur RTL.
RTL. Il était une voix, Roger Carrel.
Parfois, il faut savoir être aimable, Obélix.
Tu es la voix d'Astérix, C-3PO, dans Star Wars.
Que veux-tu m'excuser, mais cette unité D2 est en parfait état.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Winnie l'ourson, Porciné.
Porciné, c'est un petit cochon qui est très timide.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai quand même la chance d'avoir une voix assez solide qui me permet encore de retomber.
Même sur des petits personnages qui parlent comme ça.
Génial, Roger Carrel qui a porté comme ça, incarné tellement de voix différentes qui nous ont accompagnés, soit parce qu'on savait que c'était lui, soit parce qu'on le savait pas et on le découvrait après. Jean Bilbol, vous êtes chirurgien ORL, vous racontez l'histoire, la belle histoire de la voix. Tiens, justement, on aurait pu commencer par là, quand il y a un Roger Carrel qui est capable de partir dans plein de directions. Est-ce qu'il a des cordes vocales différentes des nôtres? Est-ce que ça ressemble à quoi, tiens, d'ailleurs?
Alors, les cordes vocales, c'est... En fait, on a deux cordes vocales, on n'a pas 56 cordes vocales comme un piano. On a deux cordes vocales, les cordes vocales sont situées juste en arrière de la pomme d'Adam, chez l'homme, la pomme de F chez la femme, je rigole, il n'y en a pas, mais ça revient au même. Et donc ces deux cordes vocales font un V à l'horizontale, et non pas à la verticale, à l'horizontale. Elles s'allongent lorsqu'on fait un I, et dans les graves, elles se raccourcissent. C'est un muscle comme le biceps, qui font environ 20 mm de long chez l'homme, 18 mm chez la femme, 4 mm de large, et avec ça on arrive à faire pratiquement... Chez les gens comme nous, 3 octaves. Chez les grands professionnels, ils peuvent aller qu'à 4 ou à 5 octaves. D'ailleurs, Farinelli, à l'époque, était un castrat qui permettait cela. Et d'ailleurs, à ce moment-là, est-ce que la voix est sexuelle ou est-ce que la voix est hormonale? Est-ce que finalement la voix c'est dans les chromosomes ou est-ce que c'est les hormones? Et là c'est passionnant parce que la vraie expérience c'est Farinelli qui nous l'a faite. C'est que lorsqu'il a été castrant, il était castrant parce que dans les églises on n'avait pas le droit de chanter, les femmes n'avaient pas le droit de chanter, c'est une longue histoire, superbe histoire, bon, trop long pour la raconter, où on avait interdit les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes séduisaient tout le monde. Donc on n'écoutait plus que la femme et on n'écoutait pas Dieu. Et là c'était pas possible.
Et alors ces hormones... imitateurs par exemple, est-ce qu'ils ont des cordes vocales différentes?
Non.
Non, des nôtres.
J'y arrive. Oui, tout de suite. Et donc, à ce moment-là, les cordes vocales, comme le biceps, et à ce moment-là, ces cordes vocales vont vibrer, mais on revient à la caisse de résonance. Ouais. C'est la caisse de résonance qui va donner l'amplification de la voix. Et pour venir aux imitateurs, il y a deux exceptions. L'imitateur, c'est l'artiste des artistes. Ouais. Eh bien, ils ont des cordes vocales pour la majorité d'entre eux, pour moi, le plus impressionnant dans la voix chantée. Mais vraiment, c'est Gregorio,
qui est extraordinaire,
qui, lui, a une voix superbe. Ils ont des cordes vocales légèrement asymétriques qui leur permettent de truquer sur la voix et qui leur permettent de jouer. Mais ça, c'est les artistes de l'artiste. Mais maintenant, le ventriloque, lui, c'est un acrobate du larynx. C'est un monsieur qui est un bilingue. Parce que le ventriloque, quand il vous parle, il peut vous parler normal, et lui a une force musculaire, c'est un athlète. Oui. Mais c'est un magicien de la voix. Pourquoi? Parce qu'il va vous faire croire que c'est la poupée qui parle. Mais donc il est dans la magie, il n'est pas dans l'art, l'artiste, mais c'est une autre forme d'art. Cette magie, son regard regarde la poupée, donc votre regard va regarder la poupée et vous pensez que c'est la poupée qui parle, parce qu'il ne bouge pas ses lèvres. Comment? C'est dans le livre.
Oui, Jean-Yves, ce livre, La belle histoire de la voix, aux éditions Debout, qui remonte donc jusqu'à Lucie, 3 millions de 100 000 années. Et cette question, est-ce qu'elle pouvait parler?
Alors, c'est une excellente question. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le crâne de Lucie.
Oui.
Ce crâne, on a mis de la pâte à modeler dedans. Et on a regardé, vous savez qu'il y a des sillons sur le cerveau, que ce cerveau imprime notre crâne, et lorsqu'il a imprimé ce crâne, il va vous donner les sphères dans lesquelles l'aire de Broca, l'aire de Wernicke existe. Mmh. On a retrouvé ces projections-là, donc elle pouvait parler comment, certainement pas comme nous aujourd'hui, cette gestuelle vocale,
sommaire,
tout simplement parce qu'elle était courbée, elle était moins en position verticale. Par ailleurs, il y avait un moins grand développement, car l'épigénétisme, c'est encore un autre sujet avec les années, fait que l'homo Erectus est arrivé, l'homo sapiens est arrivé, et là on a développé la voix d'une façon remarquable depuis environ 200 000 ans.
On a encore plein de questions, c'est fascinant, c'est passionnant, Jean-Louis de Bolkien. On va vous en poser une juste après la pause. Autour des jumeaux, les jumeaux ont-ils forcément la même voix? Et puis, de quoi on parle aussi?
Second sujet de curiosité, on va se passionner pour l'histoire de la police scientifique et de son inventeur. Il y a un homme derrière tout ça, puis après plein de femmes et d'hommes évidemment. Mmh. Alphonse Bertillon, il a notamment inventé le système des empreintes digitales. Attention les voleurs.
Restez avec nous sur RTL.
Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes sur les plages comme au large. Ces 8 000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu 24 heures sur 24 pour sauver la vôtre. Et pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous mille raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Aidez-les dès maintenant en faisant un don sur jesoutiens.snsm.org.
Chez Total.
14h-15h.
Wow, je suis très très contente d'être avec vous ce soir. Moi c'est Douli.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Pour tous ceux qui se poseraient des questions. Oui, je suis née avec cette voix et cette addiction de clochard. Ah, non, c'est pas des conneries, hein. Je parlais déjà comme ça à 5 ans. Hé hey, Mélanie, tu me prêtes ta poupée?
Thomas Hugues. Denis Bonnec.
Et toujours avec nous, Jean Habitbol, chirurgien ORL, qui nous raconte l'histoire, les facéties de notre voix. Alors, vous nous avez appris énormément de choses. Par exemple, on est remonté 3 200 000 années en arrière pour découvrir que Lucie, notre lointaine ancêtre, possédait sans doute une première forme de langage articulé, certes plus archaïque que la nôtre, mais quand même. Et on va terminer avec une histoire de jumeaux, de vrais jumeaux monozygotes. Déjà, il faut nous rappeler ce que c'est, les vrais jumeaux monozygotes.
Alors, c'est tout simplement entre guillemets, des vrais jumeaux, c'est-à-dire qui se ressemblent intégralement. Ouais. C'est un ovule qui a été séparé en deux avec les mêmes chromosomes ensemble. Donc il a été séparé. Et d'ailleurs, il y a des familles de jumeaux. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai un excellent ami. Son grand-père était jumeau, son père était jumeau, et lui-même est jumeau, et sa fille est jumelle. Donc c'est assez impressionnant.
Vous nous racontez une histoire justement de jumelles, de vraies jumelles, qui participent à une émission de télévision.
Ah, extraordinaire.
Absolument qu'on ne les connaisse pas.
C'est une histoire fabuleuse. Une histoire extraordinaire. On a pris deux jumelles, mais qui ne voulaient pas se ressembler.
Ouais.
Vous en aviez une en blonde et puis l'autre en brune, l'une cheveux courts, l'une cheveux longs, l'une en jean, l'autre en robe style à la belle petite princesse. Ils arrivent sur le plateau, les gens sont masqués, donc ils se retournent un peu comme dans The Voice. Ils se retournent et on les regarde et ils ne sont pas jumelles.
Ouais.
On ne dit pas que c'est les mêmes,
d'accord,
on les fait parler.
Ouais.
Eh bien, tous les jurys qu'il y avait, c'est ce qu'on appelle un jury test, les 5 personnes ont dit c'est la même voix, c'est la même personne qui parle. Donc la voix a trahi le fait qu'elle ne voulait pas être jumelle.
Donc
la voix est une signature de chacun.
Ouais.
Cette signature est telle qu'elle est vraiment fondamentale, à tel point qu'aujourd'hui, la signature vocale est relativement travaillée, mieux que l'empreinte digitale.
Mais ça veut dire quoi, Jean Bitbol? Que les jumeaux monozygotes ont la même voix, de toute manière?
Ils ont exactement la même voix, sauf... Et il faut toujours mettre un bémol, heureusement d'ailleurs en science, c'est ça qui est fabuleux dans la science, parce que ce qui est beau quand c'est scientifique, c'est qu'on peut dire le contraire quelque part, sinon c'est pas scientifique. Et bien là, ce qui est fabuleux, c'est qu'une femme qui aura fumé, je parle volontairement de la femme qui a fumé 2 paquets par jour, qui habite, mettons, à Londres, sa sœur jumelle habite à Paris, n'a jamais fumé à tête. À un moment donné, la voix de la femme, de sa jumelle, sera légèrement plus grave. En revanche, ce qui va se passer, c'est que cette voix en question va garder les mêmes silences, la même musicalité, les mêmes façons d'ordonner.
La même signature.
Et on termine là-dessus. Merci beaucoup.
C'est bon, merci à vous.
Jean-Paul,
vous publiez, je le rappelle, La belle histoire de la voix. C'est aux éditions Debouc. À bientôt.
À bientôt. If you dare to believe,